Bienvenue à l'expérience audio Simplement plein air. Cette expérience vous est rendue possible grâce à la participation des partenaires suivants.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre. Temps frisquet, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
Au chalet comme à la maison, verrouille ton arme. En cas de doute sur la façon d'entreposer ou de transporter ton arme, opte toujours pour l'option la plus sécuritaire. En collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle aux propriétaires d'armes à feu qu'une arme bien verrouillée peut éviter des drames.
Tu trouveras tous les règlements présentés de façon visuelle et simple sur sécurité-armes-à-feu.com.
Verrouille ton arme.
Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, La Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Bonjour chers auditeurs, mon nom est Nancy Proulx-Martin pour la chronique Simplement Bouffe. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Cette semaine, j'avais envie de vous partager une recette de doré que j'ai essayée avec Guy la semaine passée, puis on a trouvé ça vraiment bon. Donc, je voulais pas garder ça pour moi. Donc, ma recette cette semaine, c'est doré citronné au chou de Bruxelles. La préparation est 15 minutes, la cuisson environ 15 minutes, et ce qui donne 4 portions environ. Préparez vos papiers crayons, je vous donne les ingrédients. Vous aurez besoin de 4 filets de doré, 2 cuillères à table de beurre, un oignon haché finement, 2 tasses de chou de Bruxelles coupé en deux, un quart de tasse de jus de citron ou plus au besoin, épices au citron au besoin, un quart de cuillère à thé de basilic séché, un quart de cuillère à thé d'origan séché et un quart de cuillère à thé de cerfeuil séché. 6 à 8 branches de persil frais hachées grossièrement. Sel et poivre au goût. Un citron coupé en 4 quartiers. Et 2 cuillères à table de fécule de maïs diluée dans l'eau. Et pour l'accompagnement, vous aurez besoin de 1 à 2 gros choux-fleurs, ça dépend de la grosseur, et 2 cuillères à table de beurre au goût, et sel et poivre au goût. Maintenant, pour la préparation, videz et nettoyez 2 dorés et en faire 4 filets. Et ensuite, coupez-les en morceaux d'environ 1 pouce et réservez au frigo. Dans une poêle à frire à feu vif, faire fondre 1 cuillère à table de beurre et ajouter l'oignon haché, le faire suer jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Nettoyez les choux de Bruxelles et coupez-les en deux et les ajoutez dans la poêle et brassez souvent. Une fois que les choux de Bruxelles commencent à dorer, versez une petite quantité de jus de citron pour déglacer, mais ne le versez pas au complet. Ajoutez le restant du beurre et le faire fondre. Ensuite, ajoutez les morceaux de poisson et le reste du jus de citron, ainsi que les fines herbes. Baissez le feu à moyen-bas et laissez cuire jusqu'à ce que le poisson soit bien cuit. Assaisonnez avec l'épice au poisson au besoin. Si vous désirez en faire une sauce, prenez 2 cuillères à table de fécule de maïs, diluez dans l'eau et ajoutez-le au mélange et versez de l'eau en petite quantité à la fois jusqu'à ce que la texture soit à votre goût. Maintenant, pour l'accompagnement, prendre les têtes de chou-fleur et les mettre dans une marguerite. Assurez-vous qu'il y ait assez d'eau dans la casserole. Ouvrez le feu à vif et une fois que ça commence à bouillir, baissez le feu à moyen-bas et laissez cuire 5 à 10 minutes ou jusqu'à ce que le chou-fleur soit bien cuit. Gardez l'eau de cuisson pour ajouter à la purée. Une fois que vous avez versé l'eau dans une tasse à mesurer, faire tomber les choux-fleurs dans la casserole, épilez-les et ajoutez le beurre et le liquide au besoin. Voilà, maintenant vous pouvez servir dans les assiettes de service. Et c'est tout. Voilà, c'est tout pour ma recette de cette semaine. J'espère qu'elle vous plaira et pas compliqué à faire. Maintenant, allons rejoindre notre amie sommelière Mélissa Goyer qui nous a fait un accord pour la recette de cette semaine. Allô Mélissa!
Bonjour Nancy, bonjour chers auditeurs. Cette semaine pour ma chronique, je vous parle d'un blanc coup de cœur, vraiment savoureux et abordable qui bien sûr sera parfait pour accompagner la recette de doré de Nancy. Alors, le vin cette semaine, l'Arpent des Vaudons 2019 de Jean-François Mériot, c'est dans l'appellation Touraine et ça, ça se trouve dans le fond dans la vallée de la Loire en France. Ce vin coûte 20,20 $ pour en finir avec 20,20 $. Ah, me semble qu'on le dit souvent celle-là cette année, mais bon, c'est vraiment un hasard. En fait, j'avais pas remarqué jusqu'à ce que je l'écrive. Alors, ce vin, ben ça faisait un bout que j'avais pas bu un bon Sauvignon blanc. On dirait que ça me tentait un peu moins, peut-être avec le temps plus froid. On a tendance à aller chercher des vins peut-être un peu plus gourmands. Mais là, franchement, j'ai été vraiment surprise par celui-ci. Alors, dernièrement, je vous ai aussi présenté un vin de la Loire qui était de l'appellation Vouvray, qui était fait à base de chenin blanc. Alors, comme quoi, hein, vraiment, cette région-là a vraiment beaucoup de diversité et en offre vraiment pour tous les goûts. Donc, ici, on est dans l'appellation Touraine, vallée de Cher, sur les rives du fleuve et on se trouve face au Mont-Richard. On y cultive le Sauvignon blanc, entre autres, et souvent, c'est plutôt sous l'appellation Sancerre, qui est vraiment magnifique, là, qu'on va trouver le Sauvignon blanc parfait dans cette région-là, dans la Loire. Mais ici, en Touraine, on a vraiment bien réussi pour quand même moins cher, là, pas mal moins cher, donc c'est considérable. Le climat de cet endroit est continental, si bien que les vins qui y sont produits sont remplis de fraîcheur. Donc, c'est vraiment un climat qui favorise un bon écart de température entre le jour et la nuit et ça donne des vins toujours bien frais et avec une bonne acidité. D'ailleurs, Sancerre dans le fond, l'appellation de Touraine, là, on est vraiment proche, là, on est vraiment sur la même rive, dans la même région. Donc, c'est quand même pas étonnant qu'on ait un vin similaire au niveau des saveurs. Alors, dans notre verre, ce que ça donne, la couleur, elle est jaune paille. C'est assez pâle quand même et le nez, c'est vraiment frais, sucré et acide. Je trouve que ça sent la pêche blanche, l'abricot un peu également. Je vous dirais l'abricot là, qui serait peut-être encore dans l'arbre, là, peut-être pas tout à fait mûr. Là. Donc, on sent vraiment quelque chose d'acide aussi. Donc, quand même de sucré, fruité, mais acide. On est donc dans le fruit blanc. Il y a aussi du zeste de citron et du persil frisé. C'est vraiment l'herbe qui domine là, quand je le sens. Donc, on a dans les odeurs là, vraiment du fruit, de l'acide et du vert, donc une super fraîcheur. Eh bien, dans la recette de cette semaine, ben il y a tout ça. Alors, il y a beaucoup d'herbes. Alors, c'est pour ça que pour moi, ça faisait vraiment un combo qui était super intéressant. Donc, dans la bouche, quand on y goûte, c'est vif et frais. Puis, on retrouve le fruit qui vient vraiment prendre toute la place par la suite pour ensuite vraiment laisser une petite amertume, un peu comme une petite acidité, là, comme le zeste. Et aussi l'amande amère qui vient vraiment finaliser la gorgée. Donc, on a vraiment une belle suite de saveurs pour un vin à 20 $. étonnant quand même. L'équilibre est vraiment là. Puis le petit goût d'amande, là, même si on est dans la subtilité et dans la fraîcheur, vient ajouter un peu de corps au vin et aussi appuyer, là, dans le cas de notre accompagnement cette semaine, la purée de chou-fleur au beurre qui est l'accompagnement de la recette, en fait. Donc ça va vraiment amener le petit goût d'amande, en fait, vraiment amener de la rondeur et quelque chose de soyeux au vin pour rappeler un peu cette texture-là. Alors, les fruits blancs et les agrumes qu'on a dans les saveurs vont vraiment de pair avec les saveurs du plat. On a quand même du citron pas mal et vraiment toutes les herbes, donc le basilic, le cerfeuil qui est un peu anisé, l'origan et le persil aussi. Alors, c'est vraiment un vin qui est intéressant et il va même terminer avec une petite pointe saline qui est franchement agréable en fin de bouche quand on a un accord avec des fruits de mer ou, dans notre cas, cette semaine, le fabuleux doré. Alors vraiment, ça va être parfait. Donc, un bon blanc à avoir sous la main, qui sauve bien aussi, assez passe-partout. Même, tu sais, c'est ça, que ce soit à l'apéro ou à la table, là, c'est vraiment une super bouteille, honnêtement. Alors, je vous le redis, l'Arpent des Vaudons 2019, appellation Touraine, de Jean-François Mériot. C'est représenté par Raisin et c'est à 20,20 $. Alors, je vous souhaite une bonne dégustation. C'était Mélissa Goyer.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Vous êtes de retour à Simplement plein air. Pour les habitués, vous le savez, c'est le moment de l'émission où on envoie Guy Martin prendre une pause vraiment bien méritée pendant que je reprends le flambeau, le temps d'une chronique pour vous parler de la pêche à la mouche. Pour les nouveaux, je me présente, Vincent Delisle, instructeur et cofondateur de l'école de pêche à la mouche Spirit. Cette semaine, j'ai enfin l'honneur de pouvoir recevoir un de mes super de bons amis, une personne qui a vraiment eu une bonne incidence aussi sur le développement de l'école puis qui m'a vraiment encouragé justement dans le développement puis l'atteinte de mes rêves. Un vrai passionné de la pêche à la mouche, un gars qui cumule des années d'expérience de pêche au saumon et qui ne compte plus les heures passées derrière un étau. Je pense qu'il y en a une gang qui n'auront pas assez de leur vie pour le rattraper. Un gars modeste, mais surtout généreux de ses connaissances quand vient le temps de les partager. Je vous le présente, j'arrête là de parler, là, puis je vous présente Éric Tremblay. Hey, salut Éric, comment ça va?
Ça va très bien.
Hey, merci beaucoup de te joindre à nous. Hey, avant de se lancer dans le sujet, là, je te demanderais, juste pour que les auditeurs puissent se faire une petite idée de l'homme derrière le micro aujourd'hui, ça fait combien d'années que tu pêches à la mouche?
Déjà 35 ans, je vais entamer ma 36e cette année.
OK. Et ça fait combien de temps que tu es derrière l'étau?
On va parler à peu près d'une douzaine d'années.
Pas plus que ça?
Non. J'ai commencé quand ma conjointe a commencé à pêcher avec moi. J'ai dit, ça va me coûter cher de mouche. J'ai commencé à monter. Puis plus sérieusement, seulement que dans les 5 dernières années.
OK. Ça fait à peu près une douzaine d'années que tu montes.
Oui.
Y en a une gang, probablement, de nos auditeurs qui s'y fréquentent un peu certains groupes de pêche à la mouche sur Facebook qui ont certainement dû voir passer quelques-unes de tes mouches, ne pas les nommer, exemple, la Titan, ta version de la Tiger Ghost, et puis c'est même toi, en fait, qui a même monté puis fini le design de la Spirit. En à peine une douzaine d'années, t'as trouvé le moyen même d'avoir... je suis dans le champ, là. Une mouche au musée de Madame Wolf.
Il y en a deux, la Titan puis la Green Days.
Oui, fait qu'en 12 ans, tu as fait un sacré chemin au niveau du montage, toi, là.
Un peu, parce que, comment je pourrais dire, ça a été plutôt les circonstances de la vie qui a fait que j'ai été obligé un peu de m'enligner derrière un étau, qui m'a permis de passer au travers bien des choses.
Ah, effectivement, la pêche à la mouche, c'est utile et ça fait du bien au corps et à l'âme. Ça, c'est, les auditeurs peuvent te le confirmer au nombre de fois que je trouve le moyen d'en parler. Par contre, aujourd'hui, le sujet, c'est principalement un échange pour avoir tes conseils sur le choix des mouches selon les conditions de pêche. Parce que on a un monteur d'expérience qui trouve le moyen de faire prendre du poisson avec ses mouches à ben du monde, qui a le don d'en attraper aussi, qui a passé bien du temps, puis probablement qui a été aussi inspiré puis guidé par d'autres bons pêcheurs. Je pense que on finit tous par apprendre un peu aussi des autres. Donc, aujourd'hui, là, si tu avais quelques conseils à nous donner pour nous aider dans le choix de nos mouches, lorsqu'on est sur une rivière. T'sais, on a deux types de rivières, surtout au Québec. Là, on a beaucoup des rivières à eau brunâtre un peu sur la côte nord et sur la rive nord du fleuve. Puis la côte, le côté nord aussi là, du Bas-Saint-Laurent. Puis on a les eaux claires de la Gaspésie. Donc, si tu peux nous aider un petit peu à nous y retrouver sur les choix de base, puis ensuite, on pourra voir quel temps qui nous restera pour un peu plus de détails.
Okay. Ben, ce qu'on peut dire vraiment, tu sais, la première phrase que je dis tout le temps, puis je vais probablement me répéter souvent, c'est le saumon qui décide en bout de ligne. Mais généralement, à un moment donné, moi, j'ai créé beaucoup de mouches en fonction des températures, de la qualité du niveau d'eau, puis la couleur de l'eau. La couleur, elle a un gros effet de l'eau sur la couleur de mouche qu'on va mettre. Plus qu'une mouche est jaune, plus qu'une mouche va avoir du vert, va avoir plus de sens à venir chercher l'attraction dans des eaux. On en parle de la côte nord et un peu comme Matane, Métis, puis la Rimouski, des eaux un petit peu plus brouillées comme Matapédia. Fait que quand on demande quelle couleur qui est l'idéal, ben moi, par expérience, depuis 35 ans, je peux vous dire que j'ai joué beaucoup avec le noir, le vert et le rouge. Parce que le rouge dans le corps. Ça fait que ces couleurs-là prennent son winner partout. Par contre, quand on va arriver dans des eaux plus claires, les couleurs seront pas vont être sensiblement les mêmes, mais il va y avoir une différence. Et où est-ce que le bleu va ressortir un peu plus? Puis le vert plus haut sort quand même encore, mais le bleu va ressortir un peu plus souvent. Ça fait que souvent, quand les gens demandent comment ça se fait que tu crées tes mouches-là, vraiment, comme je vous dis, c'est toujours selon les conditions, puis la température, puis le niveau d'eau. Comme exemple, le premier choix, quand on arrive en début de saison, on parle toujours de grosseur de mouche. On ne sait pas quoi mettre, un 3, un 5, un 7, quelle couleur. L'idéal, en début de saison, je dis toujours, c'est de mettre une 1.5. Les gens veulent aller chercher des grosses 3.0. Pourquoi que je ne conseille pas le 3.0? Vous allez comprendre, pour les nouveaux, c'est qu'il y a un principe de levier sur la mouche. Plus qu'elle va être longue, plus que le levier va se faire, vous allez perdre plus de grosseur. Fait que ça, quand on parle de choix de mouche, il faut faire le choix aussi de la grosseur. Puis le choix de la grosseur, en début de saison, c'est du 1.5, puis on est rendu avec la mode des tubes aussi. Fait que ça, c'est important à comprendre. Parce que si on va mettre des grosses 2.0, 3.0, 6.0, pourquoi j'ai perdu mon saumon? Pourquoi? Ah, c'est pas la bonne mouche. Non, souvent, c'est parce que c'est décroché, le levier, vous avez ferré. Le principe de levier a changé complètement, ça fait que ça fait sortir la mousson de la bouche. Ça fait que ça, c'est un facteur. Le facteur des jouets, ça va toujours en fonction de la hauteur de l'eau. On va aller avec la grosseur. Une mouche, le matin, on dit tout le temps mouchon. L'après-midi, on dit une mouche claire. Mais je vous dirais, des fois, on peut passer une mouchon dans l'après-midi, même si c'est clair.
Oui, bien, ça, c'est le principe. Tu l'as bien dit tout à l'heure. C'est le saumon qui décide. Et... c'est ça. Il y a des règles, il y a des constances qui ont un peu plus de succès, mais il y a des journées, quand la constance fonctionne pas, là, ben, vaut mieux essayer quelque chose d'autre qui sort de la constance.
Ben, je dis tout le temps, les gens, des fois, à un moment donné, regardez aux alentours de vous, les gens qui pêchent, regardez les mouches. Ça, c'est un conseil que je donne régulièrement aux gens. Ils disent quoi? Regarde ce que le gars va mettre, puis regarde dans ton coffre, où est-ce que tu as différent de ce que le gars met depuis à peu près une heure ou deux.
OK, tu parlais des mouches des autres pêcheurs. Là, moi, je pensais que tu parlais des mouches qui volent au-dessus de la rivière.
Non, tu regardes. Non. Là, pour le saumon, on n'est vraiment pas dans les éphémères. Correct. Je m'excuse.
No way.
On n'est pas à la truite. Puis c'est vraiment la différence. La différence fait qu'aujourd'hui, quand on prend du saumon, c'est toujours en fonction des couleurs qui vont venir agresser le saumon. Ça, c'est important. C'est l'agression que tu as besoin d'aller chercher. À un moment donné, il marche pas, puis il fait rien, puis il bouge pas. Puis là, t'en regardes aux alentours, t'en regardes les gens, les pêcheurs, qu'est-ce qu'ils ont passé comme mouche. Puis regarde ton coffre, puis passe quelque chose de plus laid que t'auras pas, de plus différent que t'auras. Et toi, peut-être t'as pas savoir qu'elle va prendre un saumon.
Attends un peu. Mais c'est Eric qui vient de me dire de choisir la mouche la plus laide. Mais t'en as pas des mouches laides, toi, là, là.
Ah, ben, ouais, c'est un peu parfois de difficultés, mais c'est un peu plus difficile, là, mais parfois. Mais sérieusement, le choix des mouches, c'est sûr qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses. Mais l'important, c'est qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'en début de saison, faites attention aux grosseurs que vous allez mettre. Puis plus que l'eau va baisser, ben, il faut vraiment diminuer nos grosseurs. Quand on parle des mouches, il y a la température en chien et loup le matin.
Il nous reste une minute.
C'est important de comprendre quand le chien est loup, c'est important de mettre comme des undertakers, des green bottes, tout ce qui ressemble à ça. C'est là que vous allez avoir de plus de succès parce que votre couleur change au niveau du vert puis du rouge du bot. Puis, normalement, une belle petite chienne aussi, une belle petite blue charm, du bleu, ça fonctionne aussi.
OK. Hey, ça va toujours trop vite, les entrevues, mais les auditeurs commencent à être habitués. Je prévois souvent un live pour poursuivre la discussion et aller aussi plus en profondeur. Donc, gang, on vous avise. Mercredi, le 9 décembre prochain, à 20h, sur la page de Spirit, eh bien, mon invité Eric va venir nous rejoindre pour poursuivre la discussion. Donc, vous pourrez venir lui poser des questions. On va aussi découvrir un peu plus aussi qu'est-ce qui l'a amené vers la pêche à la mouche, qu'est-ce qui lui a fait du bien. Et Eric, si on veut te découvrir sur les médias sociaux, on peut te suivre de quelle façon?
Moi, sur ma page Tremblay-Éric, souvent là, puis je publie beaucoup par les autres groupes. Puis toujours Instagram aussi par BlackDose1, comme le nom de la mouche.
OK, super. Hey, merci beaucoup. Ça a été extrêmement rapide. On se voit la semaine prochaine. On se voit là justement le 9 décembre prochain. C'est une invitation à tout le monde à 8h. Donc, à très bientôt, Éric.
Merci.
Bye.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous. Et voilà, nous sommes de retour à l'émission Simplement plein air. Et comme tout le monde le sait, à ce moment-ci de l'émission, ben, on parle pêche. Et quand on parle pêche, ben, on parle avec un guide, avec un pêcheur professionnel, en la personne de M. Félix Goulet. Salut Félix!
Salut Guy!
Ah, écoute Félix, t'as fait un voyage de rêve, mon gars. Tu nous as fait rêver dans ton Facebook avec les beaux petits dorés que tu as capturés à la baie de Quinte. Parle-nous de ça un peu.
Oui, de retour dans 2 semaines de pêche à la baie de Quinte. Oui, effectivement, on prit des gros poissons. La baie de Quinte, c'est ça, hein, c'est des gros poissons. Je veux juste mettre pas en garde, mais je veux juste... mettre un bémol, c'est que la baie de Quinte, c'est des gros poissons, mais c'est pas nécessairement une quantité de poissons. Puis, cette année, c'était vraiment le cas. Je sais pas si les poissons n'étaient pas encore assez rentrés, s'ils n'étaient pas assez avancés dans leur migration vers la baie, mais il y avait moins de poissons que les autres années. On a réussi à prendre des poissons toutes les journées. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a une diversité de poissons pareil. On vise les gros dorés géants, mais il y a possibilité de prendre d'autres poissons. On a pris des silver bass, puis on a pris des perches blanches.
OK. Puis, tu sais, quand tu vas là, à Baie de Quinte, ouais. J'imagine, tu sais, parce que c'est tellement populaire, dans l'imaginaire des gens, c'est pratiquement du bateau cordé un sous l'autre. C'est-tu le cas?
Non. Non, c'est pas le cas. Il y a des journées, c'est sûr que les journées de fin de semaine, il y a beaucoup de monde. Mais la section de la baie qui est pêchée à ce moment-ci de l'année, c'est moyennement large, c'est moyennement long. C'est une section de, je te dirais, une bonne quinzaine de kilomètres. Ça doit avoir en moyenne un 3 kilomètres de large. Donc, il y a quand même beaucoup d'espace. Mais oui, effectivement, il y a des journées. C'est sûr, le samedi, s'il annonce une belle journée, pas trop de vent, on peut voir 25-30 bateaux. La pêche se fait à la traîne avec des gros poissons nageurs. Puis, on utilise des petits dériveurs de surface installés directement sur la ligne là, pour distancer les rapalas à côté du bateau. Donc, il faut juste être vigilant pour pas, quand on croise un autre bateau, pour pas que nos dériveurs se cognent, se touchent. Mais c'est pas si mal que ça. Moi, j'étais allé 2 semaines. J'ai fait plusieurs journées en semaine. En semaine, là, quand on voit 7, 8, 10 bateaux, c'est déjà pas mal. Puis comme je disais, la baie, la section qu'on pêche, c'est quand même assez grand. Donc, c'est pas si mal. On se pile pas trop sur les pieds. Fait. De ce côté-là, ça va bien. Ensuite de ça, mais oui, on a pris des gros poissons. D'année en année, je vais à la baie de Quinte. D'année en année, je bats mon record personnel. Cette année, on a pris un gros poisson d'au-dessus de 13 livres, 13 livres et quart. Un monstre. Juste pour te dire, Guy, là, quand il arrivait en arrière du bateau, j'avais la prise dans les mains. Puis quand je l'ai vu, quand je l'ai vu apparaître, les jambes sont mises à me claquer ensemble tellement je... tellement un doré devient énorme, devient gros. On ne voit pas ça souvent, un poisson, un doré de 13 livres, donc c'est quand même assez impressionnant. Puis tu vois, c'est exactement pour ça qu'on va à la baie de Quinte.
Ouais, puis qu'est-ce qui fait que ces dorés-là viennent gargantuesques comme ça, là?
C'est le lac Ontario, hein? C'est la bouffe de disponible dans le lac Ontario. Dans le fond, ces dorés-là, vont vivre dans le Grand Lac Ontario toute l'été. Ils vont vivre là, ils vont se nourrir de gasparo, comme les saumons chinook vont se nourrir de gasparo. Ils vont se nourrir de gasparo, ils vont se nourrir d'éperlans, ils vont se nourrir de plein de poissons à pas. Puis on sait que le lac Ontario regorge de poissons à pas. Donc ces poissons-là ont une nourriture de disponible incroyable, donc ils vont devenir, ils n'auront pas de difficulté à prendre du poids. Puis quand on dit prendre du poids, là, le doré, le gros poisson qu'on a pris, le plus gros qu'on a pris, là, c'était... Il n'était même pas si long que ça, là. Il mesurait, c'était un doré de 32 pouces, un petit peu au-dessus, là, 32 pouces et quart, je pense. J'avais l'impression qu'il avait les épaules aussi larges les miennes.
Wow! Ça, c'est comme tu le dis, là, tu sais, nous autres, quand tu as pris un doré de 400 livres, là, on est fous, là, mais rendu à cette grande grosseur-là, moi, mon plus gros avis, c'était justement dans la région Mascoutène, d'une grosse femelle de 11 livres dans le temps, là. Ça, je te parle de là bien longtemps. Puis, on avait un gros, puis c'est drôle, parce que, anecdote, juste en passant, je pêchais habituellement dans des petits trous, moi, juste des petits 4 pouces. Puis là, ce matin-là, j'étais avec un ami, puis lui, il avait sa terrière à gaz dans le temps, on avait juste ça, à part la manuelle. Puis lui, il dit, on perçait des gros trous un matin, là. Il dit, laisse faire ta petite terrière, là, on s'épuisera pas avec ça. Bim, 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 fait gros trous. On n'a pas fini dans le temps, dans ce coin-là, on avait le doigt à 10 brimbales sans la glace. Mm-hmm. On a installé peut-être la troisième, puis ça a mordu. Mais là, ça a tapé dans le fond, toi, mon ami, là. Puis il n'y a pas grand taux en dessous de ça, là. Et puis finalement, on a combattu ça, puis j'ai sorti ça. On a pris, dans ce temps-là, c'était pas naturellement nos caméras sur nos téléphones, hein. C'était la petite caméra jetable qu'on ramassait dans le fond à quelque part dans le camion. On a pris une couple de photos, puis quand même, ça fait des beaux souvenirs pareil.
Exactement. Alors, c'est sûr, un poisson de. Un poisson, un doré au-dessus de la barre des 10 livres, ça commence à faire un méchant trophée. Puis, tu sais, je renchéris ce que tu disais tantôt. On prend un doré de 400 livres, c'est un beau poisson. Puis là-bas, à la baie de Quinte, on a pris plusieurs poissons de 6-7 livres. Puis, tu sais, un poisson de 6-7 livres, c'est un poisson qui est quand même impressionnant aussi. Mais quand on pense au doré de 13 livres et quart qu'on a pris, ben, le doré de 6 livres, il rentre deux fois dedans.
Mm-hmm. C'est ça.
C'est ça. Fait que ça commence à faire des gros poissons. En moyenne, c'est des gros poissons comme ça. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas nécessairement la quantité qui va être présente.
Non, c'est ça.
On trôle, on pêche avec des gros poissons nageurs, on se promène. Puis, une fois de temps en temps, il y a une planche de dérive, un petit dériveur de surface qui recule vers l'arrière. On sait qu'il y a un poisson qui vient de s'accrocher. Puis, on espère toujours. Puis, la baie de Quinte, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va ramener au bateau un doré de 15, de 16 livres. Il y en a dans la baie de Quinte. C'est pour ça qu'on va là. C'est dans l'espérance de prendre le plus gros poisson. Puis, la grande majorité de mes clients qui passent dans le bateau quand j'étais à la baie de Quinte, ils battent leur record personnel cette journée-là.
Je comprends. Puis tu dirais que la moyenne là, de ce que tu as vu, parce que naturellement, en passant deux semaines-là, tu dois fréquenter d'autres guides. On parle de quoi environ, là, d'une moyenne? Si on ferait une moyenne générale.
De la grosseur des poissons?
Oui, oui.
Je te dirais que ça joue entre 7 et 9 livres. C'est ça la moyenne. Mm. C'est ça la longueur moyenne. Mettons 7 à 8. On prend beaucoup de poissons de 6, de 7... après ça, du 8, une fois de temps en temps du 9, Puis après ça, ben un poisson. Comme cette année, j'ai pris deux poissons en haut de 10 livres. L'an passé, j'en avais pris plus que ça. L'année passée, je pense que c'est 6-7 poissons en haut de 10 livres. Mais c'est ça. La pêche, comme je le disais au début, elle a été une petite affaire plus difficile cette année en nombre de poissons. Mais c'est ça. Mais je dirais un 7 livres, c'est pas mal la moyenne.
Ça fait rêver quand même, là. C'est des beaux voyages, puis ça vaut la peine. Parce que j'imagine déjà que tu as des réservations pour l'année prochaine.
Si on a des... j'ai déjà des gens qui m'ont contacté, effectivement.
Si on a des auditeurs, là, qui ça leur tente, là, d'aller pêcher, peu importe le temps, là, que ce soit en hiver, que ce soit au printemps, que ce soit en été, sur le lac, ou peu importe où vous voulez aller pêcher, ben sachez que notre ami Félix est disponible, car c'est un guide. Puis Félix, si on veut te contacter, là, si on veut prendre rendez-vous ou juste avoir des informations comment ça fonctionne avec toi, on le ferait de quelle façon?
J'invite les gens à m'envoyer un message via Facebook. Les gens vont avoir de la facilité à me retrouver sur Facebook. Une fois de temps en temps, je mets des photos des pêches, des sorties de pêche que je fais. Donc, les gens vont avoir de la facilité à me rejoindre via Facebook. M'envoyer un message concernant la pêche, concernant mes forfaits de pêche, concernant un sujet, n'importe quel sujet au niveau de la pêche, ça va me faire plaisir de leur répondre.
Absolument. Et la semaine prochaine, ben naturellement, on sait que là, officiellement, on a le droit de s'aventurer sur les plans d'eau gelée. La pêche à glace est ouverte, mais attention, en fait, très attention. Et la semaine prochaine, ben, on va parler de la réglementation à l'installation de votre varveau. Donc là-dessus, nous, Félix, on te dit bonne semaine et bonne pêche.
Merci beaucoup, Guy.
Et c'est là-dessus qu'on conclut l'émission pour cette semaine. Donc, soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Simplement plein air. Salut tout le monde!
Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Au chalet comme à la maison, verrouille ton arme. En cas de doute sur la façon d'entreposer ou de transporter ton arme, opte toujours pour l'option la plus sécuritaire. En collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle aux propriétaires d'armes à feu qu'une arme bien verrouillée peut éviter des drames.
Tu trouveras tous les règlements présentés de façon visuelle et simple sur sécurité-arme-à-feu.com.
Verrouille ton arme.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre. T'en frisquais, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, La Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca. Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.